L'effet Mathilda. Ça ne me dit rien du tout. C'est quoi l'effet Mathilda?
Est-ce que c'est... ça me dit un truc? C'est pas le, les moments où les travaux en sciences d'une femme sont volés par un homme où il prend tout le crédit?
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Deux heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts. Et aujourd'hui, on va se pencher, à l'initiative évidemment de notre rédacteur en chef féministe Cyril Lacarrière, sur le phénomène sournois qui mine les carrières des femmes, l'effet Mathilda. Ces femmes qui ont créé, qui ont inventé, qui ont découvert, mais qui ont été effacées de l'histoire par leurs collègues hommes. Ainsi, et c'est avec un frisson d'effroi que je le dis, si ça se trouve, le succès de notre cantine, le bistrot Blériot, notamment son entrée l'année dernière dans le guide Pudelot des meilleurs bistrots parisiens, doit moins à William, son patron, qu'à Christine, sa patronne. Et même, si ça se trouve, ce n'est pas dans le cerveau fécond de William qu'est née la disruptive recette du chili con carne aux frites. Oui, c'est peut-être Christine qui un jour s'est dit, tiens, et si au lieu du riz, on accompagnait le chili con carne de frites, histoire d'alléger un peu le plat. Flairant que sa femme venait d'avoir une idée révolutionnaire, William avait ensuite revendiqué la paternité de ce coup de génie culinaire qui devait procurer tant de joie aux clients du Blériot et un doublement du chiffre d'affaires de toutes les pharmacies alentours vendant de l'imodium. Voilà, illustré par un exemple à la fois simple et chic, l'effet Mathilda dans toute son injustice. Un exemple d'autant mieux choisi que l'effet Mathilda ne concerne que le monde des sciences. Donc là, on était au Blériot, ça n'a rien à voir. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Première phrase et première connerie de l'animateur de cette émission,
notre invité.
Isabelle Vauglin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de me dire l'effet Mathilda concerne tous les domaines?
Oui.
On peut parler d'effet Mathilda
dans les domaines,
en littérature
Tout à fait, bien sûr, c'est pas seulement dans les sciences.
Parfait, et eh bien voilà.
Le doucasseur de Cyril n'a pas l'air au clair là-dessus.
Réécrivez votre doucasseur, Cyril.
Ce qu'on avait l'impression, c'était que l'effet Mathilda était né autour de la science et qu'ensuite, effectivement, ça se décline sur d'autres thèmes. Ça.
C'est exactement ça.
Ah, bon, merci. Bon, il ne faut pas être fâché avec Cyril Lacarrière, le rédacteur en chef de cette émission. Isabelle, vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Lyon. Vos recherches portent essentiellement sur l'instrumentalisation de l'infrarouge et l'étude des populations stellaires dans les galaxies. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous.
Effectivement, je suis une instrumentaliste infrarougiste, c'est-à-dire que dans les laboratoires de recherche en astrophysique, on n'utilise pas des instruments qui sont dans le commerce. Ils sont conçus et créés dans les labos. Donc, on doit construire nos télescopes et les instruments qu'on met derrière. Et après, on les utilise pour un but ou un autre. Et en infrarouge, c'est vrai que c'est un domaine qui est spécifiquement adapté pour voir toutes les parties sombres de l'univers. Les parties très poussiéreuses, parce que, justement, les longueurs d'onde infrarouges réussissent à sonder ces espaces-là.
Donc, j'ai compris que vous avez créé l'outil, l'objet, pour ensuite l'utiliser.
Non. L'univers, il ne s'est pas créé par les hommes.
Mais l'outil, vous avez créé l'infrarouge.
On a créé l'outil. Le télescope. Non, l'infrarouge, c'est une sorte de lumière que nos yeux ne voient pas, puisque nos yeux voient que le visible. Mais pour arriver à comprendre les objets dans l'univers, on doit les regarder à toutes les longueurs d'onde.
Et décidément, donc... mon baquet, c'est loin.
Si ah ouais.
Pas une dedans.
Non, pas une dedans aujourd'hui. Isabelle, vous avez dirigé également la rédaction d'un livre absolument passionnant. Les filles ne sont pas faites pour la science. C'est ce qu'on voit quand on regarde d'un premier coup d'œil. Mais en fait, le titre, c'est Les filles sont parfaites pour les sciences. Hein, le S de parfaite est barré par un R. C'est paru chez MKF Éditions en partenariat avec le CNRS et l'association Femmes et Sciences. Ce sont 48 portraits de femmes scientifiques destinés à illustrer donc l'effet Mathilda dont on va parler avec vous aujourd'hui. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices. Alors là, pas d'effet Mathilda en vue, c'est bien Manon qui a eu l'idée du titre de sa chronique, la pièce jointe de Manon Mariani. Personne ne lui conteste cette incroyable trouvaille. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour, alors c'est mon compagnon en plus.
À qui on peut rendre hommage.
Oui, c'est vrai, il a eu cette belle idée au Mexique. Voilà.
À vos côtés, Isabelle, elle est hélas la preuve que les sciences ne traitent pas de la même manière les hommes et les femmes. Car si Manon avait été un homme, sa théorie audacieuse et pour tout dire révolutionnaire sur la bijection réciproque de la fonction exponentielle appliquée au verre de Porto, selon laquelle, en résumé, plus l'on boit de verre de Porto, moins on est ivre, lui aurait valu la médaille Fields. Comme elle est une femme, c'est Cédric Villani, un type qui porte une araignée à la boutonnière, qu'il a eue, alors que franchement, sa théorie du Porto tenait la route.
Une dose de par exemple, de Porto, donc du coup à 5 centilitres, si j'en bois 15 d'affilée, ça va changer la donne.
C'était brillant. Manon,
je serais moins
sûr. J'en reviens pas que j'ai dit ça à l'antenne, c'est fou quand même.
Dans votre pièce jointe aujourd'hui,
j'ai honte. Oui, un film aujourd'hui raconte l'histoire de trois mathématiciennes américaines noires sans qui la NASA aurait bien eu du mal à lancer
lancer des fusées.
Face à vous, Isabelle, il s'est toujours volontiers présenté, notamment sur les applis de rencontre, comme un allié des femmes. De là, imaginez que l'inventeur du carter sec, Helmut Fulmiger, de la fourche télescopique, Gilles Pithiviers, de la suspension hydraulique, Cullen McGregor. De là, imaginez donc que Helmut, Gilou et Cullen aient piqué leurs idées à des gonzesses pour révolutionner le sport mécanique, discipline de bonhomme s'il en est. Non, le wokisme va trop loin à votre goût, mon cher Quentin.
On a eu Michel Mouton en rallye.
Ah, c'est vrai, ouais. On a eu Michel Mouton.
Dorian Pain, par exemple.
Oui. Dieu, c'est vraiment, qui était dans la nouvelle tête. Vraiment l'encyclopédie des sports mécaniques.
Ben voilà.
C'est terrifiant.
Allons-y.
L'effet Mathilda, vous en avez parlé aux gens dans la rue, ils connaissaient ?
Alors, je suis retourné à la fac. Ça m'a fait drôle, mais on a pas.
C'est la première fois. Pardon.
Bah, j'ai pas eu des parents qui m'ont payé des
écoles.
La fac, c'est gratuit.
Déjà, c'est pas gratuit, il faut payer des inscriptions. Et mes parents. Non, les parents.
C'est bien franche, le mec.
Mes parents ne m'ont pas payé des fausses écoles de journalisme. Mais bon, ça m'a fait drôle. On a parlé science, découverte et appropriation du travail d'autrui. Qu'est-ce qui a changé en 2025 ? Réponse dans la prochaine demi-heure par un journaliste, s'il en est peut-être.
Causette. Dans
le trottoir, complètement
oui.
À la rue.
Oui, 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 vers 16h30, leurs noms ne vous disent rien. Et pourtant, derrière les Helmut, les Gilles et les Cullen, il y a parfois des Betty, des Gisèle et des Solange. En fait, elles étaient même devant et eux derrière. Mais l'histoire a renversé le tableau. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la rencontre de ces inventrices qui ont été effacées par des hommes. Juste avant 17h, le jour où on découvrira qu'en fait c'est son mari qui a écrit tout son spectacle, alors on évoquera peut-être le premier cas d'effet Mathilda inversé. Marine Leonardi répondra de ces accusations parfaitement gratuites tout à l'heure. Après 17h, restez avec nous, le chanteur Raphaël sera notre invité, c'est avec lui qu'on décryptera l'actu du jour. Mais d'abord, Isabelle Vauglin, on va parler de cet effet Mathilda. Est-ce que vous-même, déjà, en tant que scientifique, vous avez été victime de cet effet Mathilda qui, donc on le rappelle, c'est l'idée que des femmes créent, inventent, innovent et c'est des hommes qui s'approprient leurs découvertes.
J'ai pas créé, inventé des choses qui ont été appropriées par d'autres, mais c'est vrai que l'effet Mathilda peut être aussi le fait d'être moins cité, d'être placé dans une position qui n'est pas mise en valeur dans les auteurs d'un article. Et ça, oui.
Ça vous est arrivé. Et vous pensez très clairement que c'est arrivé à toutes les femmes scientifiques ?
Je pense qu'on globalement peut presque dire que c'est arrivé à toutes les femmes, oui.
Connaissez-vous l'effet La Carrière ? C'est ce vent chaud, ce sirocco, rehaussé de quelques effluves de terre d'Hermès, son parfum d'automne, qui souffle dans les couloirs de Radio France, oui, quand Cyril, La Carrière, notre rédacteur en chef, franchit la porte du bâtiment et qu'il retire sa barbure pour dévoiler une chemise à carreaux de trappeur canadien, aussi douce que ce sourire qui fait fondre depuis 4 générations déjà, ouais, les Lacarzouz. Cyril, comme il est 16h12 et que l'effet La Carrière a eu le temps d'un peu retomber, oui, dites-nous l'effet Mathilda, d'où ça sort ?
Ça va se relancer. Imaginez, vous êtes dans un labo, vous faites une découverte incroyable, mesurer la structure de l'ADN, observer les premières étoiles à neutrons ou élaborer la théorie de la fission nucléaire. Mais quand les manuels raconteront l'histoire, hop, votre nom aura disparu. Bonjour Watson et Crick, Otto Hahn et Anthony Ewish, oubliez Rosalind Franklin, Liz Meitner et Jocelyn Bell Burnell. Trois femmes, trois découvertes majeures, trois effacements. Bienvenue dans le monde de l'effet Mathilda, quand les femmes scientifiques voient leurs travaux minimisés, attribués à des hommes ou simplement oublié. C'est à l'historienne des sciences Margaret Rossiter qu'on doit cette notion. En 1993, elle la présente comme le pendant féminin de l'effet Mathieu. Et là, Mathieu, vous me demandez quel est cet effet Mathieu ?
Oui, je vous le demande, Cyril.
Eh bien, on le doit à Robert Merton. Et visiblement, ce cher Robert savait ce qui se passait dans cette émission, puisque l'effet Mathieu, c'est quand la renommée et le crédit s'accumulent toujours sur les mêmes personnes déjà connues.
Bon,
comprendre, ah, vous, Mathieu Noël, qui vous gavez de gloire pendant que nous, soutiers de Zoom Zoom Zen, on cravache dans l'ombre en mangeant des cailloux et en buvant de la poussière. Eh bien, pareil, pour l'effet Mathilda, Margaret Rossiter explique comment, au fil des siècles, des femmes scientifiques ont vu leur contribution ignorée, déformée ou carrément attribuée à des collègues masculins. Alors, d'où ça sort l'effet Mathilda ? Eh bien, de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci, Cyril. Je ne sais pas si je dois vous dire merci pour vos élucubrations. Enfin, Isabelle Vauglin, vous dites dans votre livre que s'il y a peu de femmes en science, c'est parce que, déjà parce qu'elles ont peu de modèles, en fait. C'est le début de l'effet Mathilda, quoi.
Oui, c'est à la fois le début et la conséquence. C'est parce que justement il y a cet effacement des femmes des sciences que du coup leur nom est oublié par la société et du coup les jeunes filles à l'heure actuelle n'ont toujours pas de modèles de féminin pour essayer de se dire ah bah tiens, pourquoi pas, j'essaierai de faire la même chose qu'une telle ou une autre. Donc cet effacement des femmes de l'histoire des sciences conduit à un manque. Enfin, est une des raisons du manque de jeunes filles en sciences encore à l'heure actuelle.
On apprend quand même des trucs assez dingues. Et un exemple assez parlant, c'est Lise Meitner. Vous l'avez cité, Cyril. Pouvez-vous nous raconter ce qui lui est arrivé à cette Lise ?
Lise Meitner, elle cumulait aussi parce que elle était femme et elle était juive dans l'Allemagne juste avant Deuxième Guerre mondiale.
C'était pas le bon moment.
Donc du coup, c'était pas le bon moment. Et effectivement, elle a travaillé avec son collaborateur sur la compréhension du phénomène de la fission nucléaire qui allait donner quand même la bombe quelques années après.
Changer le monde.
Ah oui. Au moment où son collaborateur Otto Hahn a été récompensé, eh bien, son nom avait disparu, elle n'a pas été...
Mais lui-même ne la cite pas.
Eh bien voilà, c'est quelque chose qui fait réfléchir, parce que toutes les femmes dont Cyril a parlé, on pourra en rajouter d'autres, on pourrait rajouter des Sidu de soi, Nettie Stevens pour le rôle du chromosome XY dans la détermination du sexe. Ce sont des femmes dont les travaux étaient vraiment pionniers et qui n'ont pas été associés à la récompense. Il faut savoir quand même que Pierre Curie aurait dû recevoir le prix Nobel de physique tout seul. Et c'est lui qui a dit au comité Nobel, j'ai complètement travaillé avec Marie, elle je refuse le prix si vous ne l'attribuez pas à Marie aussi.
Et aucun homme n'a fait ça pour une femme.
Et ben les autres, non, ils n'ont pas fait ça.
Étonnant.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Le manspreading appliqué aux sciences. L'astrophysicienne Isabelle Voglin est avec nous pour zoomer cet après-midi sur l'effet Matilda ou comment les femmes sont invisibilisées dans les sciences, même quand elles sont à l'origine d'avancées majeures. Au total, 6 prix Nobel ont été décernés dans l'histoire à des hommes pour des découvertes faites par des femmes. On peut quand même se poser la question sur la misogynie du comité Nobel ?
Oui, on est.
vous la posez pas, vous y répondez visiblement.
Tout à fait. Et puis même, il y a un exemple en 2024...
Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, parce que là, on prend des exemples du passé, mais en 2024, il y a encore des cas comme ça qui, en tout cas, on s'interroge sur.
Mais je ne sais pas si vous avez suivi les prix Nobel 2024 et 2025, prix Nobel de sciences, moins de 4% de femmes nommées au prix Nobel dans ces filières qui sont physique, chimie et médecine. Et 2024, 0 femmes. 2025, une femme sur les, je sais plus combien ils étaient, 9 ou 10.
Parce que c'est tout un système pour vous, oui. Ou vous pensez qu'il y a moins de femmes qui se présentent?
Non, parce que le prix Nobel, on ne se présente pas, on est présenté. Et la façon dont les femmes sont reconnues, elle est handicap pour être présentée par les confrères. Il y a très peu de confrères qui vont présenter des femmes. Ouais. Donc du coup, c'est biaisé. Et pour le prix Nobel de médecine 2024, le comité, enfin la Fondation Nobel elle-même a fait un post le lendemain avec une magnifique photo de Victor Ambros, un des lauréats du prix Nobel de médecine 2024, sur lesquels on le voit lui tout sourire à côté d'une femme. Et le commentaire du poste de la Fondation Nobel elle-même, c'était Victor Ambros fête son prix avec sa collègue et épouse Rosalind Lee, par ailleurs première autrice de l'article cité par le prix Nobel.
Mais c'est invraisemblable.
Voilà.
Mais ça n'était relevé, pardon, je n'ai pas suivi cette
affaire. Ah si, femmes et sciences, ça allait.
Non, mais dans le monde des sciences, j'imagine que ça a été relevé, mais est-ce que ça n'a pas eu un écho public énorme ? Ou si on en a parlé dans les médias ?
On en a parlé un peu dans les médias. Merci de nous donner la parole aujourd'hui.
Bien d'en reparler parce que ça paraît tellement énorme que...
Et vous-même, du coup, comment vous êtes devenue astrophysicienne ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Sachant que, comme vous le dites, l'effet Matilda, on voit quand même peu de femmes représentées en tant que scientifiques.
C'est vrai. Je sais pas exactement. Je sais que quand j'étais enfant, je suis jurassienne, donc les montagnes du Jura, bien sauvages et tout. Quand j'étais enfant, mon grand-père regardait les étoiles. Mes grands-parents nous gardaient là tous les 5 petits-enfants. Et il regardait les étoiles parce qu'il aimait ça. Et j'étais la seule à sortir le soir, regarder les étoiles avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'aimais ? Est-ce que parce qu'à ce moment-là, j'avais mon grand-père pour moi tout seul ? J'en sais rien. Mais je sais que c'est lui qui m'a appris les premières constellations et à 7 ou 8 ans, j'ai dit quand je serai grande, je serai astronome. Et j'ai toujours gardé cette idée.
Et on vous a toujours encouragé à le faire?
Non, jamais.
Entourage? Ah bon,
non. Ma mère, elle m'a répondu, oui d'accord, mais c'est pas un métier.
C'est pas un métier ou c'est pas un métier de femme?
Elle m'a dit c'est pas un métier.
Qu'est-ce que vous dites aux petites filles qui nous écoutent et qui rêvent peut-être, qui sont peut-être douées dans, en sciences et qui rêvent de ça et qu'on ne pousse pas vers là, puisqu'il y a peu de femmes mises en avant dans les sciences, alors qu'en fait elles sont évidemment aussi compétentes que les hommes. Quel message vous avez envie de faire passer?
Ah ben surtout d'avoir, d'être persuadée que c'est elles qui savent ce qu'elles veulent faire. Avoir confiance en leurs compétences. Leur dire et leur répéter que les cerveaux des femmes ont exactement les mêmes capacités cognitives que les cerveaux des hommes. L'éducation au niveau de la famille, de l'école, des médias, même du travail, fait qu'on est assigné à des métiers, des stéréotypes très genrés. Mais ce n'est qu'une une assignation sociétale. Ce n'est pas du tout le résultat de capacités de nos cerveaux. Nous avons exactement les mêmes capacités.
Face à vous, Isabelle, il est l'auteur d'un jeu de mots qui aurait pu valoir son exclusion du groupe hier. Commentant dans la book WhatsApp de Zoom Zoom Zen la photo de notre stagiaire Pénélope pratiquant le hula hoop, il a écrit
« Moi,
je fais plutôt du hola hop » en trois mots.
Alors, mais c'est pas... Je faisais un personnage.
Non, oui. Vous faisiez un personnage?
Sans mauvais jeu de mots.
Ah
moi,
oui, bah oui.
Mais vous n'avez pas le droit de faire ce personnage, Quentin, vous le savez. Parce que vous n'avez pas le droit.
Ah d'accord.
D'un point de vue même légal, vous n'avez pas le droit, Quentin.
Donc Mathieu je vous invite, a eu un message sur trois, voilà, manifestement.
J'ai essayé d'aseptiser la chose, mais vous, si vous voulez, vous avez replongé dedans. Très bien, vous débrouillez au prud'homme. Mon cher Quentin, vous avez intérêt à nous épater avec votre micro-trottoir.
Oui, je marche aux abords d'une faculté parisienne. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, faites l'expérience. Je vous assure que vos études ne paraissent pas si lointaines d'habitude. Là, vous sautent au visage tout d'un coup. Vous n'êtes plus étudiant, vous êtes un trentenaire qui se balade. Un simple trentenaire. Ici, je rencontre ces deux jeunes femmes. Connaissent-elles
l'effet Mathilda? C'est quoi l'effet Mathilda?
C'est ça.
Tiens.
Il y avait ce film sur des découvertes d'astrophysiciennes. Je sais plus comment ça s'appelait, les invisibles ou je sais plus, un truc comme ça.
Oui, à la NASA.
Oui,
c'est ça.
Les figures de l'ombre.
Oui, ah, ça. Voilà, les figures de l'ombre.
Mais c'est aussi le cas en littérature, c'est aussi le cas juste de façon très générale et globale en art. C'est quelque chose qui est extrêmement palpable.
Moi, je trouve ça terrifiant, mais...
Et maintenant, c'est ce groupe d'étudiantes qui sortent de cours que je vois arriver, sac en bandoulière et chemise cartonnée contenant une multitude de documents dans les bras.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on est tout en master B2E pour biodiversité, écologie, évolution. Voilà.
L'effet Mathilda, attribué à des hommes, les découvertes scientifiques réalisées par des femmes.
Ah oui, c'est bien connu. Oui.
Avec Rosalind Franklin, tout ça, là.
Par exemple, pour l'ADN, elles me disent que sur la reconnaissance des femmes scientifiques dans l'histoire, ça change. Pourquoi?
Parce que déjà, c'est reconnu, parce qu'on pourrait ne pas du tout en parler et passer ça comme si de rien n'était et ne pas en parler en cours, parce que c'est vrai que nous, on a eu beaucoup d'enseignements où on nous a justement rappelé ça, qu'il y a des femmes qui ont travaillé dans certains domaines, et donc on remet justement en valeur le travail de ces femmes qui ont fait.
Mais est-ce que c'est dans les livres de cours?
Alors ça,
honnêtement non. On nous en parle, mais c'est pas dans les livres de cours, quoi.
Alors parler des femmes, c'est un premier pas, mais l'inscrire dans les manuels scolaires serait quand même certainement mieux. Je leur demande de me parler de leur parcours dans ce domaine, et en grattant un peu, on a parlé de ça.
Moi, pour ma part, c'était en cours. Donc, il y a un professeur qui nous appelle pas spécialement par nos prénoms et qui s'est permis, en tout cas avec moi, quand il me parle, il me dit « chérie ». Il ne dit pas pour un garçon, il donne pas d'adjectif particulier pour des garçons. Mais si ça va être les filles, ça va être « chérie ».
Et vous l'avez pas repris?
Je pense que c'est compliqué quand nous, on n'est que élèves et lui, il est professeur, donc il a un certain... Oui, c'est ça, il va nous noter, il a une renommée, il a un pouvoir, entre guillemets. On n'est pas les premières, si j'ai bien compris, à avoir vécu ça, et ça a déjà été remonté, mais il n'y a rien qui a été fait.
Oui, et puis même quand on a du pouvoir, on ne dit pas « chérie ». J'arrête désormais ces deux potes. L'un ressemble un peu à Vincent Lacoste. Je lui demande si c'est un vrai étudiant.
Alors, des vrais de la fac?
Ouais.
Oui, si vous parlez de personnes qui n'y vont jamais, oui. L'effet Mathilda. J'avoue que je connais l'effet Mandela, mais l'effet Mathilda, non. Vous êtes déçu?
Un peu. Un peu, j'aurais aimé qu'il y ait un mec qui me dise ah bah oui, bien sûr.
Si vous voulez, je peux regarder sur ChatGPT.
Oui, bah non, super, cette génération. Je lui parle de cette injustice de l'histoire et je lui demande sur quel domaine il étudie quand il va en cours.
Moi, en informatique, je sais qu'il y en a, par exemple, Ada Lovelace, il y a des grandes femmes pionnières, celle qui a inventé le Wi-Fi. Edith Lamar, c'est le Wi-Fi ou c'est l'informatique ou c'est le.
C'est Ada Lovelace, le premier programme, je crois.
Ada Lovelace pour le premier programme et Edith Lamar pour le qui a participé à l'invention du Wi-Fi, je crois.
Oui,
je crois.
Alors, c'est pas Edith, c'est Eddie. Hein, Eddie Lamar qui a co-inventé la techno qui donnera le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est le moment de vous présenter ma dernière rencontre.
Mon prénom, c'est Aria.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis en licence 1 d'électronique et d'informatique.
Je lui demande combien de femmes elles sont dans sa classe.
Oui, j'ai compté. 13. On est que 13. Sur une promo de 100 personnes. En fait, pendant l'éducation primaire, on va présenter les choses littéraires comme féminines et choses scientifiques comme masculines. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir plus de femmes en lettres et en arts et plus d'hommes en sciences.
Comment t'as cassé les codes, toi, un peu, Aria ?
Moi, je suis une personne non-binaire, principalement féminine, mais aussi non-binaire. Et donc, du coup, déconstruire les clichés de genre, ça fait partie de ma découverte de moi-même.
Alors, son exemple est intéressant. Comment ça va se passer si demain, elle fait une découverte qui change le monde ?
Je ne sais pas.
Tu signeras comment ?
Je signerai comment ? Je pense que je signerai en tant que femme. Parce qu'on vit dans un monde binaire où il faut faire un choix entre les deux. Mais si c'est possible, j'aimerais bien signer en tant que rien, en fait, en tant qu'une personne qui a fait une découverte plutôt qu'une femme qui a fait une découverte ou un homme qui a fait une découverte.
Ça pourrait être une des solutions, la découverte non-genrée.
Oui, bah c'est globalement ce que je pense serait le mieux.
Et je me permets de répéter ce que vient de dire Aria. Si un jour je découvre quelque chose, j'aimerais qu'on dise juste que ça aide le monde, pas que ça vient d'une femme ou d'un homme. Et là, je me dis que c'est peut-être le futur, le vrai. Il est peut-être là, dans une science qui ne coche pas des cases, mais qui ouvre des portes.
Merci Quentin. Isabelle Vauglin, c'est pas idiot ça finalement comme réflexion, parce que si on est esprit cartésien purement scientifique, homme et femme, on s'en fout qui a eu l'idée tant que c'est une découverte scientifique validée par la communauté scientifique. Il faudrait des découvertes non genrées, ça peut être une solution ?
Ça pourrait être une solution. C'est des choses qui, c'est pas non genré, mais pour essayer de lutter contre l'effet Matilda dans les attributions de temps de télescope. Mmh. Les attributions de temps de télescope pour nous c'est hyper important, ouais. Parce que c'est à ça que grâce à ces nuits au télescope qu'on a nous donné. Et on s'était rendu compte, il y a quelques années déjà, que les femmes, les programmes présentés par la personne principale étant une femme, étaient moins souvent sélectionnés que les programmes présentés par un homme. Et du coup, ils ont fait le test en déposant des dossiers dans lesquels, qui étaient anonymes.
Donc les mêmes
dossiers. Ils ne
pouvaient
pas savoir qui était le PI du programme. Eh bien, non seulement la proportion de programmes menés par les femmes a augmenté, mais il a augmenté plus que la proportion de femmes qui déposaient des dossiers.
D'accord.
Donc, quand on ne sait pas le genre, on va beaucoup mieux.
Que pensez-vous des réflexes du patriarcat qu'on a entendu dans ces témoignages d'étudiantes quand il dit, je vous ai vu réagir, quand il l'appelle chérie?
Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Comment on déconstruit ça?
C'est très difficile. Si j'avais une baguette magique, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait essayé de l'utiliser. C'est des choses qui viennent depuis la plus tendre enfance. C'est vrai que on entendait aussi l'une des personnes interviewées qui disait quand j'étais enfant, on me disait que les filles elles aimaient la littérature et les garçons les maths. Et c'est vrai, ça se voit dans toutes les études qui prouvent que dès l'école primaire, les interactions que les enseignants et enseignantes ont avec les élèves tout petits ne sont pas les mêmes selon qu'ils font des maths ou du français. Et puis après, ça continue. Les représentations, même dans les livres scolaires, dans les manuels scolaires, il y a eu une réforme des lycées en 2019, tous les manuels ont été refaits. On a encore regardé, c'est un truc que Femmes et Sciences fait régulièrement, ça, de regarder les représentations féminines et masculines dans les livres. Et bien, cette nouvelle génération de livres, il y a une femme pour 5 hommes dans les personnes sexuées, dans les livres de maths de la dernière génération. Une femme pour 5 hommes. Comment mieux mettre dans la tête des filles et des garçons que les maths, c'est une affaire de garçons et pas de filles? Et ça, c'est tout au long de la vie.
Est-ce que c'est important de se mélanger au travail, de ne pas faire des groupes composés d'hommes, des groupes composés de femmes, et d'avoir vraiment aussi, de garder une mixité?
C'est super important, et c'est même indispensable. Parce qu'en fait, quand on travaille dans les sciences, on essaye toujours de progresser dans les connaissances, dans les réalisations technologiques, et une équipe qui est très genrée sera une équipe qui est focalisée un peu sur le même point de vue, même façon d'appréhender les choses. Pour arriver à progresser, il faut avoir différents points de vue qui sont aussi variés que possible. La diversité est indispensable dans la recherche. Une équipe mixte est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante, beaucoup plus innovante qu'une équipe très genrée. Dans les entreprises, ils ont complètement pris conscience de ça. Pour avancer, pour progresser, pour être efficace, ils ont besoin d'équipes mixtes. C'est une nécessité.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur l'effet Mathilda, quand dans l'univers des sciences, les hommes s'approprient les trouvailles des femmes, je tiens à signaler ici que contrairement aux rumeurs qui courent, notamment chez moi, selon lesquelles ce n'est pas moi qui aurais trouvé le titre de cette émission Zoom Zoom Zen, mais mon épouse, c'est bien moi, et moi seul. Peut-être un peu aidé par ma femme. Ouais. Quand je réfléchis, peut-être effectivement qu'à un moment de la conversation, elle a suggéré vaguement ce titre, mais j'étais là, donc quelque part, c'est moi qui l'ai inspiré, ou alors c'était juste elle. Bref, jouons au Zoom Zoom Test. Zoom Zoom Test.
Ah, c'est
et
fou.
Commençons aux
c'est
surprises.
Une vraie histoire, ça.
Commençons aux surprises. C'est évidemment une fausse histoire, j'invente.
Ouais.
Pour vous
dire, ça,
évidemment. Commençons aux États-Unis et plus spécifiquement à New York. La ville qui ne dort jamais et que vous entendez ici prendre vie à travers la flûte de Cyril Lacarrière lors de l'audition qu'il avait passée à Broadway pour le casting de 42e rue. Je vous présente une certaine Lee Krasner. Née à Brooklyn en 1908, elle est considérée comme une figure clé de sa discipline, mais ne sera reconnue en tant que telle que bien plus tard. Son problème, avoir été mariée à une autre pointure de sa discipline qui l'aura complètement éclipsée de son vivant, car Lee Krasner était l'épouse de l'écrivain Ernest Hemingway, du peintre Jason Pollock, ou de l'acteur Buster Keaton.
B.
Pourquoi?
Développé maintenant.
Je sais pas, comme
ah,
ça.
Ouais. Ah, j'ai cru que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de votre culture générale. Je suis un peu déçu.
Non, mais si, c'est le cas. Non, ça m'est revenu comme ça. Oui,
c'est une bonne réponse.
Vraiment.
Réponse B. Il aura fallu attendre que Jason Pollock casse sa pipe pour qu'on se dise enfin « Ah, mais c'est qu'elle est douée, la petite Lee Krasner. » Lee est maintenant considérée comme une figure clé au sein de l'abstraction. Ses œuvres atteignent des prix élevés aux enchères. Très critique vis-à-vis de son travail, Lee détruisait ou recyclait tout ce qui ne la satisfaisait pas, comme Pierre Courade, dont la poubelle déborde de petit carnet non concluant. Et dans la série Mieux vaut tard que jamais, même mieux vaut très tard que jamais, signalons que Lee sera finalement une des rares artistes femmes à avoir l'honneur d'une rétrospective au MoMA. Restons aux États-Unis, on y est si bien. Car là-bas, il n'y a pas que dans le domaine de l'art pictural que les hommes volent la vedette aux femmes, en littérature aussi. Et vous qui êtes de fins lettrés, l'anecdote suivante va vous scotcher au plafond. Manon, Quentin, vous avez sûrement vous savez sûrement que le livre de Sanora Babb, eux dont les noms sont inconnus, a été plagié par un des plus célèbres auteurs américains qui a en plus décroché le Pulitzer avec. D'après vous, ce malotru, c'est John Steinbeck pour Les raisins de la colère en 1940, Ernest Hemingway pour Le vieil homme et la mer en 1953, ou William Faulkner pour Parabole en 1955.
Allez, c'est.
Bah, je vais dire autre chose alors. Je vais dire A.
Vous dites A.
Moi, je dis A.
Mais maintenant, vous avez dit c'est William Faulkner. Vous aimez bien cette philosophie de ce retrait dans la nature, se concentrer sur l'essentiel. C'est une bonne piste, mais c'est malheureusement une bonne réponse de Quentin, lui. Réponse A, et ce n'est pas joli, joli.
À chaque fois, c'est full hasard.
It's not pretty, pretty pour John Steinbeck, le géant de la littérature américaine, puisque le livre de Sanora Babb sur les migrants du Dust Bowl fut retardé et éclipsé par le succès soudain du roman très similaire de John Steinbeck, Les raisins de la colère, qui avait eu accès, bizarrement, à ses notes de terrain. Son œuvre ne sera publiée qu'en 2004, soit un an avant sa mort, effet Mathilda appliqué à la littérature garantie. Restons encore aux États-Unis, on y est décidément bien. Surtout quand c'est pour découvrir un autre.
Pour
moi, les États-Unis se résument à cette musique bluegrass, libre de droit évidemment. Surtout quand c'est pour découvrir un autre domaine dans lequel les femmes se sont fait arnaquer dans les grandes largeurs, celui des jeux de société.
Cette merde, c'est fini pour moi.
Et non, je ne fais pas référence, Manon, à la manière dont Pierre Courade triche et éhontément au Trivial Pursuit à chacune de vos soirées, vous donnant envie de l'étriper avec un opinel, comme vous le confiez récemment à votre psy. Non, là, on parle d'une femme qui a inventé un jeu de société qui aurait dû faire sa fortune, mais un homme de type goujat capitaliste s'est accaparé l'idée. Je vous présente Elisabeth Magui, femme engagée à gauche. Elle va créer au tout début du XXe siècle un jeu pour dénoncer le capitalisme, Landlord's Game, un succès d'estime qui, racheté pour $500 seulement, deviendra plus tard le célèbre La Bonne Peine, Risk ou le Monopoly.
C'est...
Oh, peut-être pas.
Plus fait mot, mais c'est pas La Bonne Peine.
Ah, non mais ah.
Tout le monde l'a oublié ce truc.
La bonne paye, bien.
La bonne paye.
J'adorais la bonne paye.
Moi aussi.
Ah, moi je veux dire
c'est...
ah.
Pour notre invité, c'est
moi j'ai dit
réponse.
C aussi.
C'est Isabelle. C'est la bonne réponse, effectivement. Ah. Effectivement, C C'est le Monopoly. Pauvre Babette qui voulait dénoncer le capitalisme et illustrer les enseignements de l'économiste progressiste Henry George. Dans sa version, dans la version d'Elisabeth, il faut jouer en équipe en mettant en commun les richesses et créer des services publics en payant l'impôt. Dans la version de Charles Darrow, qui lui a racheté les droits pour revendre immédiatement le concept au jeu par cœur, on joue seul pour s'enrichir en ruinant ses adversaires.
C'est mieux.
Un move immonde pour Manon, un coup de maître pour Quentin.
Oui, vous étiez.
J'ai dessiné des personnages dans lesquels vous incarnez plutôt la figure de gauche, oui. Quentin plutôt le libre-échangiste de droite.
Oui. De droite.
Là, votre vraie nature vient effectivement d'exploser au grand jour. Bye-bye, Babette. Et hello, Nettie Stevens, qui, on peut le dire, est ceinture noire cinquième dan d'effet Mathilda. Car là, on revient dans le monde de la science, et Nettie Stevens, elle s'est pris l'effet Mathilda en pleine gueule, puisqu'elle a eu le malheur de mener des travaux majeurs à peu près au même moment que son confrère Edmund Wilson, qui va récolter tous les lauriers de quoi ? De la découverte de la technologie des LED ? De la détermination du sexe d'un individu par les chromosomes X et Y ? Ou la mise au point du four à micro-ondes ?
B !
Je suis devant, je crois.
Non. À chaque fois Quentin, il espère. Il
que... C'est la prime à celui qui dit « je pense que j'étais devant ». Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « je pense que j'étais devant », c'est cette personne-là qui est désignée par la régie. Effectivement, bravo Quentin. Réponse B, on en a parlé.
Je le dis jamais, perso.
Nettie Stevens, la co-découvreuse des chromosomes X et Y. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Et cerise sur le gâteau de l'invisibilisation, elle n'obtiendra jamais un poste universitaire de premier rang. Enfin, on termine avec la bosse de fin de l'effet Mathilda, la fameuse Hedy Lamarr, qui a inventé le système de codage pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sert aujourd'hui de base à la technologie du Bluetooth et de la Wi-Fi. Et pourtant, cette découverte a longtemps été minimisée parce que on préfère parler d'elle en tant que sex symbole. Eddie. Son fils Kendrick a ses pairs dans le rap game.
C'est drôle ça.
Ou parce qu'elle est l'homonyme du criminel de guerre Helmut Lamarr.
Ah. J'ai dit avant.
Là, cette fois-ci,
Mais vous avez été aidé par l'invité, je sais pas, non ?
Vous aussi, l'invité est en face de nous.
C'est ce qu'on appelle la sororité, voilà. Quentin.
Exactement.
Bonne réponse. Oui, t'es futé.
Faut pas lui en plus dire plus fort.
T'es futé, mais t'es surtout sexy. Farouchement anti-nazi au point de mettre au point un système de fréquence permettant d'éviter de se faire torpiller par les boches. Hedy Lamarr a découvert que ça ne suffisait pas de se faire un nom dans le game de la science. Son invention s'est faite recaler par les autorités militaires qui lui disent d'aller plutôt utiliser son corps que son esprit en se servant de son image pour vendre des emprunts servant à financer l'effort de guerre. Complètement n'importe quoi. Victoire malheureuse de l'effet Mathilda et victoire, c'est logique, de Manon, aidée par l'invité. Il faut le préciser pour être parfaitement juste. Zoom sur l'effet Mathilda.
Elle était très belle, Hedy Lamarr.
Elle savait tout.
C'est vrai qu'elle
savait. Elle était très belle, Hedy Lamarr. Bah oui, vous êtes vraiment allé voir.
Donc vous rentrez dans ce cliché.
C'est pas une blague.
Elle était actrice.
Oui, effectivement.
Enfin bon.
Après, elle était très intelligente aussi, voilà. Il faut remettre l'église au milieu du village.
Exactement. Elle a eu le malheur d'être très belle. Elle, ce qui l'intéressait, c'était vraiment de bidouiller les trucs. Elle aimait les petites manips.
Zoom sur l'effet Mathilda cet après-midi dans Zoom Zoom avec l'astrophysicienne Isabelle Vauglin. Isabelle, pour enrayer l'invisibilisation des femmes scientifiques, le mois dernier, vous avez remis un rapport à la ville de Paris pour l'inscription de 72 noms de chercheuses qui seront apposés au premier étage de la Tour Eiffel, aux côtés des noms des hommes de science qui sont inscrits là-haut depuis 1889. Où en est le projet ? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment se faire ?
Ah, bien sûr qu'on espère que ça va se faire. C'est un projet effectivement qui est majeur pour nous parce que le symbole de la Tour Eiffel est très très fort et vous savez donc qu'au premier étage, Gustave Eiffel a inscrit en lettres d'or 72 noms de scientifiques et... C'est un jeune homme qui s'appelle Benjamin Rigaud qui était venu trouver Femmes et Sciences pour nous dire il y a cette injustice, il faudrait la réparer. Et donc depuis pas mal d'années maintenant, effectivement, je mène ce projet et ça y est, la maire de Paris a validé le rapport que l'on lui avait remis le 5 septembre dernier. Et l'idée est encore plus égalitaire que celle que l'on pensait défendre, qui était d'utiliser les espaces libres au deuxième étage. Mais du coup, comme c'est plus étroit, il n'y en avait que 40.
Eh ben oui.
Et
on le voit moins.
Et la direction technique de la Tour Eiffel et l'architecte en chef des monuments historiques a proposé de mettre une frise exactement au-dessus de la frisée. Okay. Donc il y aura 72 femmes.
Vous avez les 72 noms, ça c'est décidé.
On en a plus et il va falloir... Déjà, on a l'impression d'avoir fait énormément de sélections, mais on n'est pas encore à 72, il faut encore en enlever, c'est horrible.
Il y a aussi ce projet pour dégenrer le Panthéon et inscrire aux grands hommes et aux grandes femmes la patrie reconnaissante. Ça aussi, par exemple, en termes de symbole, ça aiderait à la reconnaissance des femmes.
C'est évident que d'avoir que l'ensemble de la société sache que les femmes ont été présentes, qu'elles ont apporté leur contribution et que ce soit pas continuellement nié ou caché, moi je suis persuadée que ça aurait un impact sur l'orientation des jeunes filles dans les filières scientifiques ou autres.
Mais justement, on parle de symbole, mais ça passe aussi par l'école. Est-ce que les profs aujourd'hui poussent assez, vous le dites, les jeunes filles à aller dans des filières scientifiques?
La réponse est non. Je suis désolée, mais la réponse est non. Il y a un article qui est sorti dernièrement sur une étude des appréciations dans les bulletins scolaires en lycée. Et les mots qui ressortent le plus sur je sais plus combien plusieurs milliers de bulletins scolaires qui ont été regardés, eh bien les adjectifs ou les mots qui sortent le plus pour les jeunes filles, ça va être ne pas perdre confiance et stressé. Le plus c'est souriante.
Oh, en quoi ça peut être en 2025?
Oui. Le plus c'est souriante. En quoi c'est une appréciation des compétences de la jeune fille. Alors que pour les garçons, c'est puéril. Donc le truc, il a encore plein de capacités, puisque le deuxième, c'est s'amuse. Donc ça veut dire qu'il est... Et après, c'est curieux. Donc effectivement, donc des choses très positives pour la suite de leurs études et la confiance dans leurs capacités pour les garçons, et des choses qui mettent en doute la valeur des filles.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. La pièce jointe de Manon Mariani, un titre donc trouvé non pas par vous, mais par votre conjoint. C'est l'effet Mathilda inversé.
Un film aujourd'hui.
La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie.
Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer,
je demande à assister à la réunion.
Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes.
Il faut reculer la ligne d'arrivée.
En 2016, un film américain remet en lumière trois femmes que l'histoire avait effacées. Il s'appelle Les Figures de l'ombre et il est réalisé par Theodore Melfi. Il raconte l'histoire vraie de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, trois mathématiciennes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA dans les années 60 en pleine ségrégation raciale. Elles faisaient partie du département des computers. Ces femmes, véritables calculatrices humaines qui effectuaient à la main les équations qui permettaient à la NASA de lancer ses fusées. C'est Katherine Johnson par exemple qui va recalculer les trajectoires du vol orbital de John Glenn, le premier américain à tourner autour de la Terre en 1962. Mais ces femmes sont restées dans l'ombre, ont été effacées des manuels d'histoire et sont invisibles dans les récits officiels de la conquête spatiale. Alors le casting est porté par un super trio d'actrices, Tara J.P. Henson, Octavia Spencer et Jaen Monae. Octavia Spencer est d'ailleurs nommée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin et le film est aussi nommé dans les catégories meilleur film et meilleur scénario adapté en 2017 et repart sans statuette mais s'impose comme un film marquant cette année-là dans une Amérique où Donald Trump vient de se faire élire. Toujours le même.
Et ça a été une reconnaissance ce film pour elle ?
Une reconnaissance disons tardive mais mieux vaut tard que jamais. Il a été inspiré du livre du même nom sorti la même année et puis l'année précédente en 2015 Barack Obama avait déjà remis à Katherine Johnson la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Et puis deux ans après, elle reçoit la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile qui puisse être accordée par le Congrès des États-Unis. La même année, la NASA rebaptise un nouveau centre spatial en son honneur. Elle a assisté à la cérémonie alors qu'elle était âgée de 99 ans. Ces trois figures de l'ombre sont toutes décédées aujourd'hui, mais heureusement, leurs noms sont maintenant connus de tous. Leurs travaux ont contribué à ouvrir, ou du moins on l'espère, la voie à des générations entières de femmes scientifiques.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Un jour, dans des centaines d'années, des archéologues découvriront son petit carnet. Et ils ne comprendront pas. Est-ce que ça voulait dire que dans les années 2020, alors même que ChatGPT existait déjà, on payait encore un individu pour résumer le propos d'une émission ? Eh bien oui, chers archéologues du futur, non seulement on le payait, mais en plus avec vos impôts. Pierre, vous nous résumez donc en une minute chrono l'effet Mathilda.
Et l'effet Mathilda, c'est quand les hommes s'accaparent les découvertes scientifiques faites par les femmes, c'est-à-dire presque tout le temps, sauf ici, dans Zoom Zoom Zen, où on a volontiers laissé à Manon la maternité de l'invention de la bouchetta au air fryer, innovation culinaire qui aurait pu hisser enfin la cuisine italienne au rang de gastronomie. Mais comme en science, la découverte de Manon n'a pas convaincu grand monde. C'est le drame des femmes trop en avance sur leur temps et dont nous a parlé notre invitée, l'astrophysicienne Isabelle Vauglin. Elle nous a expliqué que l'effet Matilda pouvait aussi s'appliquer aux articles scientifiques qui omettraient de citer les femmes ou minimiseraient leurs avancées. Conséquence, les manuels scolaires manquent eux-mêmes de références scientifiques féminines, un effacement qui fait que les jeunes filles ont peu de modèles dans les sciences. Difficile dans ce contexte de créer des vocations. Heureusement, notre invitée peut constituer elle-même un exemple pour les jeunes filles. Elle rappelle d'ailleurs, à toute fin utile, que le cerveau des femmes est exactement constitué de la même matière que le cerveau des hommes. In fine, le seul frein, ce sont les hommes qui l'opposent aux femmes. Le comité Nobel semble être hémiplégique en la matière. Cette année, une seule femme a obtenu un Nobel scientifique. L'an dernier, aucune. En 2025, il serait temps de rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre.
Magnifique, Gary, vous avez placé le mot hémiplégique. Bien joué, on pensait que c'était une commande ou un pari. Leonardi, vous en voulez beaucoup, je crois, à notre invité.
Bah évidemment, non mais pardon. Il n'y a pas idée de dire à la Terre entière que les femmes sont fortes en science. Je vous rappelle, Isabelle Vauglin, le plan initial, c'est de faire semblant qu'on est stupide et de se trouver un mari riche. Et Manon y arrive très bien. Je plaisante, ma chérie, ton mec est pauvre. Non mais ça fait un siècle qu'on efface le nom des femmes pour pouvoir rester peinarde à la maison devant Love is Blind. Et vous, vous êtes là, on est plus intelligente que les hommes. Mais bien entendu qu'on est plus intelligente que les hommes. Ça fait une heure qu'ils n'ont pas compris un mot de ce que vous racontez. Non mais vous dites Aden, ils pensent que c'est un groupe de rap. Non, ma pauvre Isabelle. Vous, vous avez reçu la médaille de l'égalité en 2021, mais vous avez dû vous dire, mais je suis au-dessus. Ce n'est pas l'égalité, je suis au-dessus. Surtout que dans la doc, c'était écrit « Des mains d'Elisabeth Moreno ». Alors, j'ai d'abord lu « Des mains de Nadine Morano ». Alors, non, mais j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est la double peine. Personne ne se souvient de ton travail et tu te fais décorer par une meuf qui ne sait pas compter. Enfin, c'est quand même dur. Mais bon, l'honneur est sauf. Hein, ils ont créé une allée Mathilda à Toulouse, hein, la ville où a étudié Pierre Courade. Et bizarrement, aucune allée ne porte encore son nom. Et vous expliquez donc, Isabelle Vauglin, que cette différence de traitement commence dès la plus tendre enfance, où l'on offre le plus souvent aux petits garçons des jeux scientifiques. Après, je vous rassure, ma belle-mère m'a toujours dit que le jeu préféré de mon mari, c'était le docteur Maboul. Et Dieu merci, hein, il n'est pas médecin. Il confond régulièrement mes omoplates avec mes seins. Mais bon, ça, je ne peux pas lui en vouloir. Mais surtout, il pense que mon vagin sert à faire pipi. Voilà. Je pense que pendant mon accouchement, il a été autant sonné de rencontrer sa fille que de découvrir l'anatomie de sa femme. Oui, tout est vrai. Un célèbre cas français également de cet effet Matilda est bien entendu donc Marthe Gauthier qui a découvert le chromosome surnuméraire de la trisomie 21 et qui s'est faite voler son mérite par un homme. Alors je me reconnais beaucoup hein, dans Marthe Gauthier car depuis que je fais des chroniques ici, Zoom Zoom Zen est devenue la 8e émission la plus podcastée. Seulement, qui fait les selfies avec l'invité en fin d'émission? Je vous le donne dans le mille. Les vieux mâles blancs en face de vous. Voilà. Alors je ne dis pas hétérosexuel. Vu qu'ils passent leur journée à s'entre-sucer. Après,
je suis une meuf.
T'es pas sur les photos, ma chérie. Après, ça pourrait être pire. Hein. Je pourrais être Pierre Courade qui file tout son jus de cerveau à Cyril, qui lui-même turbine dans une cave pour Mathieu, qui aspire également jusqu'à la moelle le pauvre Gérald, hein, qu'on n'aide même pas à montrer à l'antenne. Une sorte de pyramide de Ponzi de l'incompétence. Mais bon, grâce à Dieu, personne ici n'est éligible au prix Nobel. Après, toi, tu écris ta chronique toute seule et on te dit « Ah, il n'y a plus de budget pour un co-auteur ». Bah de toute façon, pas de regret, tous les co-auteurs de Paris bossent déjà pour Mathieu Noël. Après, me concernant dans ma vie, hein, je souffre de l'effet Matilda inversé, c'est-à-dire que mon mari raie la voiture, il dit que c'est de ma faute. Alors que, pardon, non mais attendez, les rétroviseurs et le pare-choc, ça sert à ça? Non, je comprends pas. Comme si j'étais destinée de toute façon à rouler dans une cadjar blanche, n'importe quoi. Mon mari, lui, il met son caleçon dans le panier à linge sale, il va bénéficier de l'effet Gourcuff. C'est tellement rare qu'il vise juste qu'il se fait acclamer en héros. Pour peu que ma mère soit dans les parages, j'ai même le droit à un « oh là là, t'as de la chance d'avoir un mari qui t'aide ». Comme quoi, à la maison, c'est comme au travail, le stagiaire s'attribue toujours tous les mérites.
Merci ou pas, Marie Leonardi, pour cette chronique très biaisée. On se retrouve néanmoins la semaine prochaine dans ouais, Zoom Zoom Zen.
Et à l'Olympia. Tu l'as validé.
Oui, oui. À l'Olympia. À l'Olympia du 10 au 13 décembre.
Tu as invisibilisé la seule femme de cette émission.
Non, mais c'est vrai.
Évidemment, les deux seuls vieux. Surtout, visiblement, vous êtes vieille, vous êtes jeune. Ouais.
Évidemment, tout le monde s'en fout de votre promo, Marie. C'est ce qui nous réunit, c'est que tout le monde s'en fout de savoir que vous êtes à l'Olympia du 10 au 13 décembre. Tout le monde s'en fout. Mais la billetterie, c'est sur le site marie-leonardi.com. Merci Isabelle Vauglin de nous avoir expliqué l'effet Matilda. Je rappelle le livre dont vous avez dirigé la rédaction, Les filles sont parfaites et non pas parfaites pour la science. Pour les sciences, c'est paru chez MKF Éditions en partenariat avec le CNRS et l'association Femmes et Sciences. Merci d'avoir été avec nous. Zoom, zoom.
Zoom Zen.